Bonjour chers auditeurs et auditrices, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une émission des échos du Grand Saint-Barthélemy avec pour thématique la santé au sein du Grand Saint-Barthélemy. Oui, ça fait redondant, je sais, mais on est sur le territoire du... Donc je vais arrêter. Oui, Sidier ? D'accord. Aujourd'hui sont présents avec nous Madame Joanne Menu, directrice adjointe de la PHM, Madame Eudelin Sarah, qui est docteur, vous pouvez me rectifier si je me trompe, Anne-Marie Tagawa, qui arrive, Chérifa Belmessous, qui est habitante du Grand Saint-Barthélemy, le docteur Joseph Béchara, qui est un médecin installé sur le territoire depuis 43 ans, qui habitait même la Busserine. Vous l'avez entendu en bruit de fond, M. Yazid Attala, de l'association Santé et Environnement pour tous. L'animation sera assurée par moi-même, Leïla Ega, Saïd Boukenouche et notre passeuse de mémoire, Karima Berich, à la conception et la réalisation, M. Farid Adrar. Nous aurons le plaisir d'écouter un micro-trottoir réalisé par Hugo Thomas Lid des Fillon, médiateur site éducatif du Centre social Flamand Iris. À la technique, nous avons notre fidèle compatriote Sidi Diallo. Et nous sommes là aujourd'hui pour notre avant-dernière émission de l'année. Saïd, parce que j'aimerais entendre Saïd.
Bonjour à tout le monde. Donc tu m'as l'air en forme aujourd'hui, continue comme ça.
Tu vois ça. Donc avant de laisser la parole aux invités pour se présenter leur mission, on va se laisser... Ah oui, Clément Boutet qui est là aussi. Nous avons une table très nombreuse aujourd'hui. Clément Boutet qui est coordonnateur santé à la Métropole, que nous remercions d'être présent, même si on l'entendra peut-être pas. On se laisse avec une première respiration musicale qui est un morceau de Stromae intitulé « Santé ».
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas, pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite. Elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Si tu ne me connais pas, brosser, brosser, tu pourras toujours te brosser, brosser. Si tu ne me respectes pas, oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Les échos du Grand Saint-Barthélemy au sein du comité Maméga sur les ondes de Radio Galère 88.4 FM, sur le canal 8C en DAB+, sur la radio numérique. Un numéro de téléphone, si vous souhaitez nous joindre au cours de cette émission, c'est le 07 49 53 26 38. Bonjour à vous. Je procède à l'envers, hein, assez étrangement. Je vous salue après vous avoir introduit. Bienvenue dans nos locaux et merci de nous accorder ce temps nécessaire et qui sera, on le sait, insuffisant pour parler de la santé sur notre beau territoire. Exactement. Mais qui est avec un corollaire, un questionnement, celui d'une médecine de classe. Donc nous interrogerons à ce sujet notamment notre passeuse de mémoire Karima Berich, ainsi que le docteur Joseph Béchara et nos amis et militants de CETS. Nos amis au pluriel, j'excuse le docteur Slim Adigi qui est malade, mais est présent quand même avec nous, notre ami Yazid. Donc nous allons passer à la présentation de nos invités. Et comme on est courtois au comité Maméga, nous allons commencer par mesdames. Donc, Madame Menu, bon, quelle est votre fonction au sein de... On sait quelle administration, mais on va vous laisser présenter la PHM.
Donc, bonjour, je suis Menu, merci pour votre invitation. Donc, je suis à la fois la directrice adjointe de l'hôpital Nord et également la directrice référente des centres de santé que la PHM monte dans les quartiers nord de Marseille.
Et donc bonjour, moi oui, c'est bonjour. Sarah Eudeline, merci de m'avoir invitée aussi. Moi je suis médecin généraliste et je travaille dans le centre de santé qui a ouvert donc il y a à peine un mois. Moi j'y travaille depuis 10 jours maintenant, donc c'est tout nouveau, au centre de santé du Grand Saint-Barthélemy qui est au Flamand.
Joseph.
Moi je suis le docteur Béchara. Et je suis installé dans le quartier en tant que médecin généraliste depuis 43 ans. Ouais, j'ai grandi dans le quartier. Bon, les gens me connaissent, je pense, un peu tout le monde. Voilà, j'ai dit.
Anne-Marie.
Alors bonjour, moi je me présente, je vais dire mon nom de jeune fille, c'est Dekil Chérifa. Moi je suis née à la Busserine. Donc aujourd'hui j'ai ouvert une association, ça va faire 2 ans. Une association de locataires, je défends les habitants. Et en plus, je fais des sorties avec les mamans, les enfants, pour animer un petit peu le quartier. Vous m'entendez ?
Oui, t'inquiète pas. Ouais. Bon, ben voilà. Le message est passé. Anne-Marie.
Alors moi, je suis Anne-Marie Tagawa. Je suis très anciennement engagée sur ce quartier, dont je suis tombée amoureuse depuis ma plus tendre enfance. Non, je suis arrivée en 73. J'ai habité à Cité Picon, en haut de la tour, pendant quelques années. J'ai connu là les médecins de Picon. Je disais à Karima que... On disait à l'époque, les habitants disaient que c'était les 2 meilleurs médecins marseillais. Et j'ai bêtement oublié leur nom. Docteur Antolini. Voilà. Et donc j'ai grandi là, professionnellement, je dirais, et puis après engagé bénévolement, puisqu'aujourd'hui je reste engagé dans le groupe de veille, dans un collectif avec des jeunes qui s'appelle Collectif Jeunes Passerelles et au Centre Social Agora.
Yazid qui tend un piège à sa collègue de travail.
Elle ne veut pas parler.
Qui ne veut pas parler.
Donc bonjour, je suis Yazid Attala. Donc j'ai grandi dans ce quartier de la Busserine. J'ai eu la chance d'être soigné par Joseph Béchara, le docteur Béchara, depuis toujours. Hein. Depuis l'âge, parce que je suis pas né à Marseille, je suis né en Algérie. Je suis arrivé ici à l'âge de 3 ans. Et donc j'ai eu la chance de connaître M. Béchara et d'être passé entre les mains d'Anne-Marie, Karima et...
Entre les mains.
Voilà, donc je suis ici en famille, ça me fait plaisir de revoir des personnages.
Nous sommes tellement nombreux que nous ne savons plus qui a pris la parole ou qui ne l'a pas pris. Allez, Hugo, présente-nous ton poste aussi.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Hugo Tomali de Filion, nouvellement recruté en tant que médiateur en risque éducatif au centre social Flamand Eris. Si on m'a invité aujourd'hui, c'est parce que je suis venu présenter un projet qui s'appelle Quartier Sonore, qui se monte avec les jeunes du territoire Grand Saint-Barthélemy. Et aujourd'hui, c'est la concrétisation pour nous, puisque c'est la première fois qu'on va diffuser quelque chose. Ça fait un petit moment qu'on s'est mis en place. Mais aujourd'hui, c'est l'inauguration sur les ondes. Donc, je suis très content de partager avec vous ce petit micro-trottoir podcast sur l'ouverture du centre de, de santé des Flamands. Je pense qu'on aura le temps d'y revenir.
Oui, on en reviendra au moment de la diffusion du podcast. Peut-être pour en revenir à Madame Menu. Alors, directrice adjointe, ça consiste en quoi ? Est-ce que c'est un boulot qui est purement administratif ? Est-ce que vous, de votre formation, vous êtes aussi un cadre administratif ? Ou est-ce que vous avez une formation de médecin ? Est-ce que ça vous laisse du temps pour faire... Bon, je vous laisse répondre.
Alors, je suis pas du tout soignante. J'ai un master de droit de la santé spécialisé en droit des établissements et j'ai passé le concours de directeur d'hôpital. Et les directeurs d'hôpitaux en France, en fait, sont formés à l'école d'études en santé publique qui est à Rennes. Donc, on est formés pendant 27 mois. Alors, on a des cours de médecine pour non-médecins, mais clairement, s'il arrive quelque chose à quelqu'un dans la salle, je je vais pas pouvoir faire grand-chose, je m'en remettrai à mes voisins. Et donc, effectivement, on a un rôle plutôt de coordination, d'accompagnement et de déclinaison aussi des différents projets, à la fois sur l'établissement et sur le territoire, pour offrir en fait un service public de santé aux habitants, que ce soit ici dans le quartier et même après au niveau régional, voire national, puisqu'on a même à l'hôpital Nord des spécialités de pointe et de recours qui, du coup, font venir des patientes partout en France pour être soignées chez nous.
Je vous remercie pour cet éclaircissement. Sarah.
Oui.
J'en reviens à vous. Donc vous êtes médecin généraliste ou vous avez une spécialité ?
Non, je fais la spécialité médecine générale. L'objectif c'est d'être médecin traitant ou médecin de famille comme on disait avant. Au sein du centre de santé là, du Grand Saint-Barthélemy, on est trois médecins pour l'instant. Il y a le docteur Alexander Sklaffer avec moi et le docteur Cécile Tronel. On est trois médecins généralistes on fait et on va faire de la médecine générale à soigner tout le monde.
D'accord.
Et le centre de santé, justement, depuis quand il est ouvert ?
Alors, le centre de santé a ouvert officiellement le 16 octobre 2023, donc il y a un mois. Et les consultations se remplissent tout doucement, mais sûrement. Pour l'instant, on a choisi de... Les rendez-vous se prennent que soit en venant au centre, et il y a toujours un accueil la journée, soit en téléphonant. Pour l'instant, les rendez-vous ne sont pas accessibles sur Internet parce que le but, c'est de soigner les gens du quartier et de rester local. Donc voilà, mais les consultations se remplissent. Du grand quartier, oui.
Vous pouvez nous dire comment s'est créé ce centre ?
Bien sûr, donc en fait c'est toute une histoire parce que ça démarre en 2015 et c'était le docteur Galinier à l'époque qui était un médecin de l'hôpital Nord qui avait en fait dans le cadre du plan Héros pu bénéficier d'un accompagnement et qui du coup avait créé en fait un service hospitalier hors les murs au niveau de Capitaine Gèze. Et qui avait à la fois donc qui proposait des consultations sur place à Capitaine Gèze et qui avait une équipe mobile du coup qui se rendait dans les centres sociaux des alentours pour faire des actions de prévention et d'accompagnement des patients. Dans le cadre notamment des démolitions de la reconstruction de Capitaine Gèze, ce service-là a été déplacé au niveau des Égalades en 2018 maintenant. Et ensuite, on avait utilisé tous les fonds qui avaient été alloués à l'époque. Cependant, on avait démontré en fait qu'il y avait un vrai intérêt à maintenir cette offre-là dans le quartier. Et donc, avec l'Agence régionale de santé, on a travaillé sur quel modèle pour en fait pouvoir pérenniser cette offre. Et on a créé donc la structure vraiment de centre de santé, donc aux Égalades. Et là, à nouveau, ça a été plutôt une réussite. Et donc, on a décidé d'ouvrir un deuxième centre. Et là, par contre, on a travaillé à la fois avec les associations, avec les habitants, avec la métropole. Il y a la préfecture aussi qui était intervenue pour justement trouver la nouvelle localisation du deuxième centre. Et ça a été donc dans les locaux que vous connaissez aux Flamands, qui donc sont situés en contrebas du centre social.
D'accord. Oui.
Oui, madame.
Pardon. Oui, Madame Menu, je voudrais vous demander, est-ce que ce centre va fonctionner 24 heures sur 24? Est-ce qu'il va fonctionner le week-end? Est-ce que le malade qui voit un médecin, est-ce qu'il est sûr de le revoir après? Parce que si vous parlez de créer une médecine de famille, le médecin de famille, lorsque les malades viennent me voir, ils sont sûrs de me trouver moi. Si je suis en vacances, peut-être, ils attendront 15 jours et puis ils reviendront me voir. Voilà. Mais je voudrais savoir si ça va fonctionner dans ce sens-là. Et puis, la création d'une médecine de famille, ça demande beaucoup de temps. Oui. Voilà. Et ça se mérite. Le médecin doit mériter ses malades. Et évidemment, il est en retour aussi.
Alors, le centre de santé n'a pas vocation à travailler 24 heures sur 24. Alors, aussi parce qu'on a des contraintes liées en fait au bâtiment, on ne peut être ouvert que de 8h à 20h du lundi au vendredi. Donc là, on ne pourra pas être ouvert le week-end. Par contre, ça se pose cette question-là sur les égalades. Et vous savez qu'on travaille avec André Roussin, qui est un centre de santé actuellement porté par Édouard Toulouse, et qu'on va récupérer aussi en gestion là, à partir de janvier. Et là, par contre, qui est ouvert tous les samedis matins. Donc quand il y a des besoins, par contre, de consultation en dehors du créneau 8h-20h en semaine, on a la maison médicale de garde éventuellement qui prend le relais à l'hôpital Nord. Et puis, il y a la possibilité, sinon d'appeler le 15, qui, vous savez, maintenant, via le SAS, peut orienter aussi vers des permanences qui sont ouvertes. Après, sur votre question sur le fait de créer une médecine de famille, effectivement, ce qu'on a vu, justement, sur le déplacement de Capitaine Gèze aux Égalades, c'est qu'il y a des patients qui ont suivi, mais forcément, il y a une patientèle qui n'a pas pu suivre, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous, ça prend du temps de créer le lien avec les patients et de pouvoir les suivre, et de suivre ensuite aussi l'ensemble de la famille. Et donc, l'idée, là, c'est vraiment de pérenniser, justement, les espaces, que ce soit aux Égalades et aux Flamands, et c'est aussi pour ça qu'on reprendrait au sein, c'est pour être sûr d'avoir des structures qui puissent durer et rester sur les territoires.
Encore une petite intervention. C'est dommage d'avoir des locaux aussi bien placés et puis ne pas pouvoir les utiliser le samedi matin pour les gens. C'est vraiment dommage. Et puis de ne pas poursuivre les consultations, ne serait-ce que jusqu'à 22h, par exemple. C'est sûr, parce que c'est ce qui est demandé dans ce quartier. Vous vous rendez compte, entre les Flamands, le Mail, Saint-Barthélemy, plus les Picons et autres, il n'y a pas, le samedi matin, c'est le désert des Agriates ici. Il n'y a rien, c'est le vide.
Mais Joseph, on va te laisser continuer un petit peu. Mais oui, mais bien sûr qu'il est pertinent encore. Mais c'est pas. Alors, Jean-Marc, excusez-moi, je dis Jean-Marc parce que c'est lui qui m'a fait toutes ces antiques sèches là aujourd'hui. Donc, il posait une question qui était, comme toi, tu étais habitant du Grand Saint-Barthélemy, est-ce que ça t'a permis de tisser des liens particuliers avec les habitants, du coup, qui sont devenus tes patients?
La plupart des patients que j'ai eus de longue date, ce sont devenus des amis. C'est pratiquement ma famille. C'est eux qui m'ont fait vivre, c'est eux qui m'ont fait gagner. Voilà, ma maison, voilà, les biens, les quelques biens que j'ai, c'est grâce à eux. Donc pour moi, c'est eux ma base.
Et une seconde question, Joseph. Parce que je sais que tu es en train de préparer ta retraite, là.
Oui.
Est-ce que tu as retrouvé un successeur, un repreneur du cabinet?
Ça fait 5 ans que je cherche et je ne trouve personne pour lui donner gratuitement la clientèle. Parce que je suis médecin aussi à la préfecture. Le mercredi, je suis à la préfecture. Et je suis médecin agréé pour les administrations, donc je vois beaucoup de gens du rectorat, etc. Je voudrais donner la clientèle médecine générale à quelqu'un qui est une clientèle qui est fidélisée depuis 43 ans. Et j'ai des gens que j'ai pas le cœur de les laisser tomber. Voilà, donc ce qui fait que je travaille plus que 3 matinées par semaine, mais je commençais ce matin à 7h. Normalement, je finis à 14h, 15h des fois. Ben, je pense que je vais rester, même en travaillant le moins possible, jusqu'à la fin de mes jours.
D'accord. Donc c'est un scoop, hein,
voilà, j'ai pas le choix. Vous vous rendez compte, des gens que je soigne, il y a des familles que je suis depuis 4, bientôt 5 générations. Et les laisser tomber, ce serait malhonnête. Ils étaient là quand j'étais dans... Je sors d'une famille de 10 enfants... avec mon père qui était veilleur de nuit, on a été des voisins avec la famille Berriche. Hein. Mm-hmm. Voilà. On ne sort pas des cuisses de Jupiter. Et ces gens-là,
pendant les périodes de vaches creuses, ils étaient là, et donc je ne peux pas les oublier.
Mmh. Yazid, tu as vu la tournure que prend l'émission, c'est bizarre, en disant je te regarde. Non. Alors Seth, sur quoi vous bossez en ce moment?
Alors déjà, je tiens à remercier Joseph de ce scoop, parce que pour les habitants de ce quartier, c'est quand même une personnalité. Bah, faut pas minimiser, en tout cas pour les générations qui sont passées par ces mains expertes. Donc merci pour eux, parce que c'est un engagement. Et effectivement, on a quand même une jeune génération qui oublie, malheureusement, qui a tendance à oublier, à tort ou à raison, après on pourra en parler, mais qui a tendance à oublier quand même le service rendu à la population. Pour revenir rapidement sur l'association 7, Santé et Environnement pour tous, elle est mandatée toujours par l'ARS et la Caisse primaire d'assurance maladie et la préfecture depuis peu, sur toujours les mêmes actions, donc réduire les inégalités en santé autour de des thématiques comme la prévention autour des cancers, cancer du sein, cancer du côlon, cancer du col de l'utérus et le rattrapage vaccinal. Et puis on essaye de répondre avec les médiateurs et médiatrices en santé à des questions qui sont plutôt larges. On se rend compte que lorsqu'on aborde une thématique de la santé, je pense que personne ne me démentira, c'est qu'on prend les problèmes de la personne, de la famille. Ce que vous disiez tout à l'heure, la confiance, en fait. Joseph, c'est une question de confiance, ça se mérite. Et les gens ne s'ouvrent pas facilement, et ça se construit, effectivement. Et donc, voilà, on a essayé depuis... Alors, on nous connaît depuis la Covid, mais je pense qu'on est engagé sur la thématique de la santé. Joanne, tu parlais du plan héros. On a fait quand même bouger les lignes en ce sens quasiment depuis, je passerai la parole après à Madame Berriche, depuis quasiment 2013. Voilà. Donc c'est une thématique qui nous tient à cœur, et on se rend compte dans ces territoires, rapport après rapport, que les choses, malheureusement, et peut-être on pourra en parler, je ne sais pas si vous avez prévu, malheureusement dévissent. Et on est heureux de voir la PHM qui s'implante dans des territoires et qui prennent l'initiative justement de créer des centres de santé. Parce que pour nous, c'est, comme le disait Joseph, trouver un médecin qui vient s'implanter, c'est pas facile. Et si on a une structure comme la PHM qui vient dans ces territoires, pour nous, c'est une garantie. Alors pour nous, en tant qu'habitants et en tant qu'acteurs et militants associatifs, c'est une garantie d'avoir une offre pérenne qui va considérer les gens sur des années et des années à venir, quoi. En tout cas, je vois mal la PHM partir au bout de 2 ans.
Je te remercie, Yazid, pour ton intervention. Joseph, oui.
Je voudrais rajouter quelque chose pour les jeunes médecins qui veulent éventuellement s'installer dans le quartier, parce que beaucoup craignent. On a une idée préconçue de ce quartier. Mais si on fait de la médecine sérieuse... je ne parle pas de s'occuper des toxicomanes ou autres, ils ont des structures qui doivent s'occuper d'eux. Il faut savoir faire une médecine sérieuse. Les gens sont demandeurs de cette médecine sérieuse, et personnellement je n'ai jamais eu de problème en matière de sécurité dans ce quartier. Voilà.
Merci Joseph. Saïd, tu as une intervention?
C'était peut-être pour toujours Yazid. Chaque fois que je te vois, on dirait que les missions prennent de l'ampleur. Tu en es où là, au niveau de la structure, où vous travaillez, sur quel secteur géographique, et qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport à la dernière fois où je t'ai vu, où on parlait de Covid?
Pour répondre à ta question de manière très courte, oui, on a élargi un peu plus le champ d'intervention. Au départ, on était sur une expérimentation à la Busserine, à Malpassé, à Capitaine Diaz, et dans le 16e arrondissement, aux Tuileries. Donc là, on a élargi. On est à la Castellane, la Viste, Consola Mirabeau. On essaye d'aller là où il n'y a pas d'offre de soins, pour justement essayer d'orienter les gens vers une offre de soins. Castellane, parce qu'il y a André Roussin. Donc pour nous, c'était logique de se dire Consola Mirabeau, parce qu'il y a le centre, la MSP de Consola Mirabeau. La Busserine, parce qu'il y a des médecins. Donc toujours, notre objectif, c'est d'interpeller les gens à prendre en charge et à prendre en compte leur santé, et de les orienter vers une offre de soins qui existe. Encore une fois, on est complémentaire avec les structures qui soignent. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Mm-hmm. Non, mais oui. Madame Berriche, on va faire une petite respiration musicale.
Oui. Respirons.
Allez, respirons avec un morceau de Pierre Perret. C'est bon pour la santé.
Comprends pas maman que ça t'affole, ce qu'on mange à la cantine de l'école, ils l'ont bien précisé. Tout est pulvérisé, traité, piqué, aseptisé, ça peut pas nous peser. Crois-moi qu'avec toutes ces vitamines, le chlorate et la pénicilline qu'il y a dans les épinoches et les chipolatas, il y a pas un astibloche qui viendrait y faire sa casse-bas. C'est bon pour la santé, ohé, tous ces produits traités, ohé. Ma petite maman, si j'ai mal au bide, faut pas t'inquiéter. Bien sûr, c'est bizarre que je sois tout pâle, avec les couleurs de ce qu'on avale. Le jambon blanc et bleu, et le bleu d'Auvergne est rouge. Les pieds du pion sont verts, et le camembert est bleu, blanc, rouge. Y a un petit goût sûr dans la choucroute. Pour moi, quand c'est sûr, c'est qu'il n'y a pas de doute. Paraît que c'est vachement bon pour avoir des cheveux longs. Nous, qu'est-ce qu'on devrait avoir comme plume avec toute cette écume? C'est bon pour la santé, ohé, tous ces produits traités. Maman, si j'ai mal au bide, faut pas t'inquiéter. Ma prof se met des crèmes pour séduire, ça y a boursouflé toute la tirelire. En y voyant le chou-fleur, son fiancé a eu peur. Lui qu'a le baigneur en saumonné par des moules gratinées. Le coiffeur qui vend des trucs capillaires, il est chauve comme une petite cuillère. On y achète du jasmin qu'on se met sur notre pain. Ça fait que tremper dans le ragoût, ça donne un petit peu de goût. C'est bon pour la santé, ohé, tous ces produits traités, ohé. Ma petite maman, si j'ai mal au bide, faut pas t'inquiéter. Question de la bidoche, y a rien à redire. Tout ce qui est pas au granulé, on le vire. Le directeur est formel, il dit que ça serait mortel si tout d'un coup comme ça on bouffait des trucs naturels. Tout ce qui est douteux, il fait le sacrifice. Il l'envoie au vioc dans les hospices. Ça part dans les casernes, aux cuisines des prisons. Ça y a suffi d'une fois que ça y a fait crever ses cochons.
Chers auditeurs, nous sommes de retour sur les ondes de Radio Galère avec nos invités pour parler de la santé sur le Grand Saint-Barthélemy. Donc avant de cette pause musicale, nous disions que Karima allait tenter de nous présenter les liens entre précarité et santé, c'est ça Karima? Arrête-moi si je me trompe, ou corrige plutôt.
Je vais lire, voilà, tu me diras si j'ai répondu à cette question. Voilà. Alors, en fait, la question qui avait été posée, qui nous avait été posée, c'était « Pouvons-nous parler d'une santé de classe accentuant la fracture nord-sud ?» Bon, moi, je vais être rapide. Donc, rappeler quand même que cette ville a été construite historiquement sur une fracture nord-sud, concentrant les grands ensembles sociaux, les ménages ouvriers et les populations immigrées dans la partie nord de la ville. D'ailleurs, le mot « quartier nord » a une connotation négative dans la tête de beaucoup de nos concitoyens, voire synonyme de pauvreté et d'insécurité. Je parlerai plus globalement des inégalités auxquelles sont confrontés les habitants des quartiers populaires, dont la majorité des habitants résident dans la partie nord de cette ville, dans le grand centre-ville de Marseille, puis quelques îlots de pauvreté dans l'est et le sud de la ville. Pourquoi ? Puisque passeuse de mémoire, je voudrais rappeler ici la mobilisation des habitants en juin 2013. Alors, cette mobilisation faisait suite au énième assassinat lié au trafic. Et cette mobilisation, les habitants se sont rendus compte très très vite que derrière la question des trafics, se posait la question des inégalités sociales criantes dans nos territoires. Donc, les habitants ont interpellé les pouvoirs publics et les élus de la République sur diverses inégalités sociales. D'ailleurs, un fascicule intitulé « Quartier populaire, urgence sociétale », 101 propositions pour les quartiers populaires de Marseille, a été envoyé à tous les partis en 2013, hors Front National, puisque c'était ainsi qu'il était, il était nommé, pardon, aux syndicats et élus des collectivités. La seule institution qui nous a répondu, ben, c'était le ministre Monsieur Hérault. Et d'ailleurs, s'en est suivi des rencontres thématiques en préfecture. Ce document est précieux. Pourquoi précieux ? Parce que élaboré par les habitants et des acteurs associatifs. Ce document a listé plusieurs inégalités sociales et fait des propositions pour l'amélioration des conditions de vie des habitants. Les thématiques listées, parce que je n'ai pas voulu sortir la question de la santé sur des questions plus larges d'inégalités sociales, puisque tout, malheureusement, tout est connecté. La question de l'emploi, le chômage a des répercussions sur la santé des gens. La question de l'école, quand on a une maîtrise moindre des codes scolaires, on a en plus de difficultés d'aller vers des équipements, des soins de santé, etc. L'accès à la culture, vous me direz, la culture, qu'est-ce qu'elle fait là ? La culture nous permet de grandir, nous permet d'avoir une place certaine dans la société ou de s'imposer dans cette société. Je pense que la culture est un élément important. La question du logement et le cadre de vie, évidemment, le fait qu'une nouvelle structure médicale s'installe au Flamand, dans le Grand Saint-Barthélemy, améliore le cadre de vie des habitants. La question de la santé, évidemment, la santé, etc. Concernant la thématique santé de ce document qui est vraiment important, donc on n'a plus d'exemplaires, mais vous pouvez aller sur Internet, vous tapez collectif des quartiers populaires de Marseille et des environs, et vous aurez ce document pour vous télécharger. Alors, concernant la thématique santé, ben, c'est Yazid Attala, ici présent, qui a écrit le volet santé, comprenant plusieurs propositions. Donc, pour un meilleur accès aux soins des habitants. Et ce qui est intéressant, je vais vous lire l'introduction parce qu'elle est toujours d'actualité 10 ans après. Voilà, donc. La situation sanitaire de nos quartiers est éminemment préoccupante. Nous assistons progressivement, comme dans les zones rurales, à une désertification sanitaire. Les spécialistes sont introuvables dans nos quartiers. Les services d'urgence et d'hospitalisation sont constamment saturés et la restructuration globale des établissements de santé marseillais menace plusieurs structures de nos quartiers. La précarité, l'insalubrité et le manque de suivi dans les soins ont conduit à la réapparition de maladies quasiment disparues, tuberculose, gale, etc. Le manque d'information et de prévention conduit aussi à une dégradation de l'hygiène de vie dans nos quartiers où malbouffe et surconsommation médicamenteuse font des ravages. Parmi une des propositions du collectif, nous avons celle-là qui est très intéressante, nous voulons que l'ARS se penche sur le déséquilibre patent qui existe en termes d'équipement d'imagerie médicale et autres plateaux techniques entre les quartiers nord et le reste de la ville. Ce déséquilibre devant aussi être pris en perspective avec la densité des bassins de population lésés. Nous demandons ce que les instances représentatives des habitants puissent, au même titre que les CIQ, être concertées par l'ARS dès lors qu'une décision sanitaire impacte nos territoires est envisagée. Autre élément qui s'est invité dans l'histoire de nos quartiers, c'est le Covid et le confinement. Et là, on a vu effectivement, ça a mis en lumière ce que nous savions déjà, acteurs associatifs, la grande pauvreté de nos quartiers et puis ce manque d'équipement de soins ou de personnel soignant. Et Yazid pourra en parler parce qu'effectivement, malheureusement, les premières personnes qui sont décédées du Covid étaient pour leur majorité issues des quartiers populaires de Marseille.
Ouais, mais très rapidement, mais c'est une histoire que tout le monde sait. Malheureusement, c'est valable à Marseille, mais c'est valable aussi dans la région parisienne. Ce sont les premiers de corvée qui ont été touchés, donc les femmes de ménage, les agents de sécurité, les caissières ou autres. Et puis, ce qu'on a toujours dénoncé, c'est malheureusement le logement, ce que tu disais tout à l'heure. Le cadre de vie est important. Quand vous avez l'incapacité à vous isoler convenablement, ben, vous ne pouvez pas le faire quand vous êtes atteint du Covid. Donc c'est une réalité, malheureusement, qui est toujours prégnante en 2023.
Pourquoi j'ai préféré aborder plutôt la question globale des inégalités sociales ? Parce qu'effectivement, durant la période du Covid et du confinement, évidemment que la question sanitaire était prédominante. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est aussi la question, c'est les enseignants qui sont très rapidement mobilisés parce qu'ils se sont rendus compte que les enfants des classes, le seul repas qu'ils avaient dans la journée était le repas de l'école. Et en confinement, ils n'avaient plus de repas ou quasiment peu de quoi se substanter. Et il y a eu des cagnottes et des mobilisations extraordinaires, parce qu'il faut, je crois que c'est vrai, les quartiers nord ont une mauvaise image, mais peu ceux qui vivent à l'intérieur ont conscience de la grande solidarité. Donc il y a eu cette question qui a été posée. Mais aussi, effectivement, comme disait Yazid, le fait que des gens sont... On a du mal à se trouver, à se loger dans cette ville, et notamment dans les copropriétés, les gens se retrouvent dans des appartements où il y a 2-3 familles, et pendant la période du Covid, ça a été extrêmement dramatique. Donc, c'est la question... c'est un ensemble qu'il faut aborder. Évidemment, la question de la santé, elle est intéressante parce qu'elle met en lumière les autres inégalités sociales auxquelles les habitants des quartiers populaires sont confrontés.
Juste une petite... une petite interpellation. Pour la PHM, en tout cas, vous avez la chance de venir dans un territoire qui est fortement doté de bonne volonté. Et je me tourne vers les habitants et les bonnes volontés qui sont présentes ici. Vous avez de la chance aussi d'avoir une structure comme la PHM qui offre et qui va offrir aux habitants quand même une capacité qui est beaucoup plus importante. Et quand je dis bonne volonté, ben je parle des infirmiers, je parle... La preuve en est, Joseph, qui dit « je ne peux pas laisser... » des amis. Donc encore une fois, on est dans un territoire qui est marqué d'histoire, et c'est une chance en fait. Je pense que vraiment, on posait la question la fois, vendredi, de savoir si ça allait prendre ou pas. Je pense que vous avez débordé, parce que vraiment vous avez débordé, parce qu'il y a de la bonne volonté. Ici, les gens, comme tu disais Joseph, cherchent à se soigner, et si vous interpelle sur l'élargissement des horaires et le week-end, c'est pas pour rien, c'est que dans ton exercice, tu peux en parler, tu es confronté quasiment à des interpellations quotidiennes, à des gens qui cherchent à se soigner. Mais encore une fois, vous avez la chance vraiment d'être dans un terrain, dans un terreau qui est très très favorable, parce que le Grand Saint-Barthélemy, c'est si on a des passeuses d'histoire, si on a des personnes qui ont travaillé et qui sont toujours engagées, si on a des habitantes qui sont toujours là, c'est qu'il y a vraiment une volonté dans ce territoire de faire en sorte que toutes les expérimentations, il y en a eu, ben, réussissent. Donc, marhaba, soyez les bienvenus.
Oui, Anne-Marie, vas-y. Je voulais juste compléter ce que vous venez de dire sans revenir dessus, en disant que bien souvent, on s'est dit que l'engagement sur ce quartier, il est quand même particulièrement fort sur le Grand Saint-Barthélemy, au point que des personnes, dont Karima, Yazid, moi j'en fais partie, et d'autres, on a travaillé sur ce, des enseignants, on a travaillé sur ces quartiers et on y est resté. Même si on n'y a pas habité, on dit qu'on y vit, en fait. C'est-à-dire qu'on est, on s'est imprégné de cette force, de cette énergie, et il y a... On se dit souvent avec Karima que et c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, Monsieur Béchara, c'est la question de la fidélité, de la loyauté, c'est-à-dire que ça se mérite, la relation avec les habitants, leur expertise sur un certain nombre de questions, comment on peut se construire. Moi, ça a été professionnel et aujourd'hui c'est un engagement militant et bénévole, mais j'imagine pas que ça puisse se faire ailleurs. Voilà. Après, j'aimerais qu'il y ait juste un petit point qui soit fait sur la question des jeunes et leur rapport à la santé. Je peux juste te dire ce que j'ai un peu essayé de repérer avec les jeunes. Ça va être l'objet d'un des conseils de jeunes qu'on tient une fois par mois. Parce que un des premiers points sur lequel qui met les jeunes en rapport avec la santé, c'est la question de la médecine sportive pour beaucoup d'entre eux. Et du coup, on se questionne tous sur comment sont faites les visites sportives. Moi, j'ai eu une expérience malheureuse avec un médecin qui était au Mail à l'époque. On faisait des tournois, je ne sais pas si tu te rappelles, Karima, avec les jeunes, beaucoup d'animations de proximité. Et on disait aux jeunes, parce que la réglementation l'imposait, vous venez faire le tournoi si vous avez un certificat médical. Et j'ai un médecin qui m'a appelé du Mail en me disant, Madame Tagawa, je ne vous connais pas physiquement, mais par contre, les jeunes, ils viennent, ils me disent, il me faut un certificat médical. Et en mettant la pression, parce que la question, ce n'était pas la visite, et la licence, elle est souvent signée. Alors bon, quand tu es médecin de famille, que tu connais bien les gamins, mais c'est quand même une occasion de travailler ces questions de santé avec ces jeunes. Ils ne font pas tous du sport, mais c'est... Et puis la deuxième chose, c'est tout le rapport et les addictions. Venez faire un tour le dimanche matin, pas que, sur le parking du centre social Agora, et vous verrez le nombre de...
les bonbonnes
bonbonnes qui jonchent le sol. C'est ça. Et c'est quelque chose aussi qui est très prenant et sur lequel il faut qu'on ait... un vrai travail en commun, je le disais l'autre jour à la réunion d'information, et en réseau pour pouvoir apporter une parole là-dessus, faire un travail de prévention, etc. Voilà.
pour ajouter sur l'histoire des certificats médicaux de sport chez les jeunes, normalement, oui, nous, c'est, pour nous, les médecins généralistes, c'est le moment où, c'est un moment privilégié où on discute de prévention. Parce que l'examen physique d'un jeune, ça, normalement, ça va assez vite, mais si on a, enfin, c'est des moments où on doit prendre le temps de dépister, de discuter et de faire de la prévention sur tous les sujets, quoi. Mais c'est des moments importants, ouais.
Et puis c'est souvent un des premiers moments où ils viennent seuls, je pense. Avant, ils viennent souvent avec les parents, bien, pour les visites médicales scolaires, mm-hmm, ou les vaccins. Bien, mais le tampon sur la licence, c'est souvent, c'est les, ils y vont seuls voir leur médecin.
C'est les seuls, voilà, moments où on les voit aussi. Sinon, en général, ils ne viennent pas.
Joseph, tu voulais dire, oui, quelque chose ?
Mais si vous permettez, il faudrait quand même une médecine dédiée à ces certificats. Moi, j'ai eu mon diplôme de médecine du sport. La spécialité, c'est une spécialité à part, hein, qui se fait en 2 ans. Hein. Mais indépendamment de ça, pour les jeunes, dans nos quartiers, il faut une consultation de médecine du sport. Comme il nous faut une consultation de médecine endocrinologique ou de médecine de conseil alimentaire, qui manque beaucoup, parce que en matière d'hygiène alimentaire, il y aura beaucoup à dire dans le quartier, une consultation de dermatologie, mais il ne faut pas que ça soit dans le cadre de la médecine générale elle-même, parce que lorsqu'on a un cabinet qui est plein, le jeune qui vient, docteur, signez-moi vite ce papier, on n'a pas le temps de discuter avec lui. Il faut que ce soit une médecine dédiée à ça. Voilà, indépendamment de ça. Moi, j'avais noté le manque, hein, moi, Madame Menu, c'est, il manque un neurologue dans le quartier, enfin, dans ce... Trouver un neurologue. Essayer d'avoir une consultation de dermatologie. Des fois, on est obligé nous-mêmes de téléphoner pour avoir quelque chose. Une consultation d'endocrinologie pour une diabétologue, parce qu'on a énormément de problèmes de diabétologie. Et la médecine de l'addiction, indépendamment de la toxicomanie, il y a l'alcool. Il y a l'alcool qui n'est pas avoué souvent. Voilà.
Je vous laisse répondre.
Alors, c'est vrai qu'on a parlé effectivement de la médecine générale, mais en fait, dans les centres de santé de la PHM, il y a d'autres professionnels de santé et d'autres disciplines qui sont présentes. Donc, vous avez notamment une infirmière en pratique avancée qui peut suivre justement les malades atteints de pathologies chroniques. Vous avez aussi une diététicienne et qui travaille en lien justement avec un endocrinologue sur le suivi des diabètes et sur la prévention aussi de l'obésité infantile. Et on a d'ailleurs été. Alors, oui, la diététicienne, on l'a au Flamand déjà. Elle est arrivée. Et par contre, les consultations de spécialistes, il y a uniquement le pédiatre qui a commencé ses consultations il y a maintenant une dizaine de jours. Et donc, l'idée, c'est au fur et à mesure de faire venir, comme on l'a fait sur les égalades, en fait, d'autres spécialités. Et donc, on a déjà sur les égalades et donc bientôt sur les flamands de la pneumologie, de l'endocrinologie. On a aussi une sage-femme qui fait donc tout le suivi en fait gynéco. Et l'idée, c'est peut-être aussi de faire venir carrément un gynécologue aussi ou une gynécologue. Donc, on a de la pédiatrie et de la neuropédiatrie. De préférence, une femme. Moi, je vous le dis. Très bien. Bah, c'est une sage-femme qui est aux égalades déjà.
Est-ce que ce sont des médecins salariés ou ce sont des médecins qui sont payés à l'acte ?
Non, ce sont des médecins salariés. Ce sont des médecins souvent qui sont en fait médecins hospitaliers et qui sont en fait dans les services hospitaliers des spécialités que je viens de citer et qui viennent faire des vacations en fait dans les centres de santé.
Madame Meunier, je sais que vous devez partir dans peu de temps. J'avais une question à vous poser, à savoir quelle est la différence entre une maison de santé et un centre médical du coup ?
Alors justement, c'est le statut des professionnels qui y travaillent. Donc un centre de santé, l'ensemble des professionnels est salarié. Et là, pour nos centres de santé, ce sont des professionnels de la PHM. Et par contre, dans les maisons de santé pluridisciplinaires, ce sont des professionnels libéraux qui sont installés dans ces maisons-là.
Et autre question, pour ce centre-là qui vient d'ouvrir, quel est l'objectif à terme en termes de soignants ?
Alors, donc, comme vous le disiez, là, il y a déjà 3 médecins généralistes, ils vont être 4 à partir du mois de janvier. Et après, on verra en fonction justement des besoins et des patients qui se présenteront. On a donc une infirmière en pratique avancée, une diététicienne. On a aussi un psychologue qui est présent. On a une personne à l'accueil et une médiatrice.
Et donc on aura ensuite des vacations de spécialistes et au fur et à mesure on ajustera en fonction des besoins des patients et on est en train de travailler aussi avec des associations qui souhaiteraient venir faire des permanences ou qui même s'installeraient peut-être à terme et on en parlait tout à l'heure des jeunes et justement on est en discussion là avec Image Santé qui fait déjà en fait des vacations sur le centre des Égalades et qui voilà, a émis le souhait peut-être de venir aussi sur le centre des Flamands.
Je vous remercie. Alors, pour permettre à ceux qui doivent partir de s'en aller, on va se faire une petite pause musicale avec un morceau très joyeux. Serge Lama, Je suis malade.
Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laid sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade. Complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu repars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Comme un rocher, comme un péché, je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé de faire semblant d'être heureux. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits, mais tous les whisky pour moi ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller. Tu es partout. Je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant moi j'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue. Si ça continue, je crèverai seul avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade. Quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir, je suis malade. C'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots et j'ai le cœur.
Nous sommes de retour en direct des échos du Grand Saint-Barthélemy. On s'est un peu dissipé, c'est Serge Lama, c'est l'effet Serge Lama, c'est pas grave. Sidi a essayé de me mettre la pression, mais ça ne marchera pas. Donc nous sommes de nouveau sur les échos du Grand Saint-Barthélemy. Une partie de nos invités a dû s'en aller, mais c'est pas grave. On dit que le meilleur est là pour la fin. Donc reste avec nous Chérifa, Karima, qui n'est pas invitée, mais Sarah, Joseph et Saïd, qui ne peut pas me quitter. Je suis à côté et il ne sortira pas. Donc Joseph, on va faire part à ton expertise et ta connaissance du quartier. Est-ce que tu peux nous parler de l'évolution que tu as repérée sur le territoire en termes de prise en charge de soins?
Une nouvelle pathologie
aussi. Oui, une nouvelle pathologie.
Eh bien, je vais peut-être surprendre tout le monde. J'ai l'impression que sur le plan de la prise en charge de beaucoup de pathologies, c'est en train de régresser dans ce quartier par rapport à avant. Avant, on avait un accès très facile au dermatologue, on avait un accès à l'endocrinologue. Maintenant, on a énormément de difficultés à orienter nos malades vers tel ou tel spécialiste. Moi, je trouve que c'est lamentable. Pour avoir une IRM, il faut attendre des semaines. Pour avoir un neurologue, lorsque vous avez quelqu'un qui a un AVC ou quoi qui a besoin, ou une épilepsie qui a besoin d'être suivie, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Voilà. Et même les cardiologues. Avant, on avait une palanquée de cardiologues. Maintenant, c'est très difficile pour avoir rendez-vous avec un cardiologue. Voilà. Je pense qu'il y a
une régression.
C'est une régression que je trouve gravissime dans ces quartiers. On va toujours nous dire oui, mais il y a des maisons de santé, il y a l'hôpital Lavran, il y a ceci, il y a cela. Mais même là, il faut attendre des mois, des semaines pour avoir un rendez-vous.
Saïd, est-ce que tu as envie de réagir?
Je crois que c'est Chérifa qui avait la parole.
Chérifa, c'est vrai qu'on t'entend.
Elle parle encore au micro.
Non, mais ce qu'il disait le docteur Béchara, il a raison. Hein. Il manque beaucoup de docteurs, cardiologues, dermatos, les spécialistes. Il en manque beaucoup. Hein.
Mais en fait, même des médecins, au final. Quand on se rend compte que chez nous, bon, il y a Joseph qui est là, qui est en train de préparer sa retraite, donc qui est un petit peu moins présent. Mais je ne sais pas, il y a un docteur qui est sur le centre commercial du Mail, qui a une salle d'attente qui est à l'extérieur.
Oui, qui est à l'extérieur, je suis d'accord avec
et
toi.
Et c'est pire que prendre un rendez-vous à la mairie ou à la CAF, qui a une queue des 6h du matin. Quoi. Donc, et malgré tout, on a le centre médical du Merlan, qui est là, je ne sais pas comment ça fonctionne.
Il y en a un qui est en train de... Il y en a un que... Bon, je ne l'ai pas vu, moi, c'est une voisine qui m'a dit, centre médical qui est en train de... à Carrefour.
C'est ça, c'est ça. Dans le centre commercial de Carrefour, il y a des médecins, mais ils font la queue aussi. Il y a du monde à l'extérieur aussi. Il me semble qu'on a sur la tour M...
Docteur
Brun. Donc malgré tout, je ne sais pas, moi ça me paraît... Je ne vais pas te dire que ça me paraît... Je n'ai pas l'impression qu'il y ait énormément d'offres, mais il y a quand même de l'offre.
Oui, non, on est bien servi, il faut dire.
Il y a beaucoup de besoins aussi.
Oui, voilà. Il y a beaucoup, on est bon.
Donc du coup, je suis en train de dire un truc, je n'arrive nulle part dans ma réflexion, c'est pas grave.
Je ne sais pas si on a précisé où se trouve le centre dans lequel vous travaillez.
Ah. Oui, c'est vrai ça. En plus, l'entrée... Alors maintenant, on a des pancartes. Donc c'est au 10 avenue Alexandre Ansaldi. Depuis quelques jours, il y a des grosses pancartes avec des grosses flèches. Donc normalement, c'est assez bien indiqué. Mais on est ouvert depuis pas très longtemps. Pour l'instant, on est en construction. Enfin, on est en construction. L'équipe est en construction. On commence à prendre nos marques. Donc, on évolue de jour en jour. Mais on est toujours en. C'est le début, quoi. Ce que je voulais dire aussi, c'était que l'accueil. On fait le tiers payant intégral, donc les patients n'ont pas à avancer les frais de la consultation s'il y a... Voilà. Je voulais le préciser. Peut-être, je ne sais pas si sur l'accueil il y avait d'autres questions, mais après...
Non. Alors, tout à l'heure, Madame Menu nous a annoncé des horaires qui étaient 8h, 20h.
C'est pour ça que je précise.
Voilà, c'est ça.
8h, 20h, c'est les horaires théoriques sur lesquels on pourrait ouvrir, qui sont liés au système du bâtiment dans lequel on est, où ça ferme complètement à 20h. Mais pour l'instant, depuis l'ouverture, et vu qu'on est trois médecins et l'équipe n'est pas encore au complet, on est ouvert de 9h à 17h.
Sur rendez-vous.
Mais l'idée... Ouais, sur rendez-vous pour éviter la queue devant de plusieurs heures à 6h du matin. Donc on est sur rendez-vous. Voilà, aussi. Et puis le but, c'est pas d'attendre 3 heures. Voilà. Donc pour l'instant, on est sur rendez-vous. Pour l'instant, évidemment, on a plein de disponibilités. On est là pour accueillir les gens. Et sur les rendez-vous, alors par contre, donc on est sur rendez-vous. Évidemment, s'il y a une petite urgence du type fièvre ou grosse angine ou je ne sais quoi, quelque chose, on a besoin de voir un médecin rapidement, on a des créneaux de rendez-vous qu'on débloque le jour même. Donc si quelqu'un se présente le jour même, qu'on connaît ou même qu'on ne connaît pas pour l'instant évidemment, en ayant un problème de santé qui nécessite une prise en charge rapide, on libère des créneaux pour être disponible. Mais on fait pas, on n'est pas des urgences, on ne va pas pallier. Voilà.
Je vois qu'il y a un doigt qui se lève oui. dans la salle. Farid, oui.
Oui, je passe, je voulais pas par la passeuse de mémoire, carrément, et ce que vous venez de dire à l'instant par rapport au médecin qui est à proximité. Certes, il y a des médecins, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un désert médical qui est vachement important dans ce territoire-là, et que nos médecins, avant, il y avait une relation qui était installée avec eux, même après la visite, on pouvait discuter avec eux. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quand on arrive, il y a une file d'attente au moins d'une vingtaine de personnes à 8 heures du matin. C'est hallucinant. Et ça, ça pose problème, quoi. Voilà.
Ça interroge plus que ça pose problème.
Je vais rajouter quelque chose. Il y a 15 ans, il y avait, je peux te citer le nom, hein, Léa, docteur Benaïm, docteur Fawzi El Aissaoui, docteur Ratigné, docteur Giraud, docteur Brun, moi-même, docteur Antolini, docteur Moubi. Actuellement, qui y reste? Et à Carrefour, ils étaient 4 médecins. Maintenant, il n'y en a plus que 2. Voilà. Et au Flamand, il y avait le docteur Journaud. Qui n'existe plus actuellement. Moi je me souviens, ne serait-ce qu'il y a 5 ans, je voyais plus de 50 malades par jour. Je commençais à 8 heures mes consultations, je prenais une heure pour aller manger et je revenais le soir, je finissais à 19 heures. Mais actuellement, qu'est-ce qu'il y a comme médecin? Il y a docteur Gauvin et docteur Israël, plus donc le docteur Brun qui est encore là et docteur Moubi, voilà.
Ouais. Et Joseph,
donc il y a une diminution du nombre de médecins dans le quartier. Ouais.
Est-ce que tu as la moindre idée, tu as une piste de pourquoi est-ce qu'on ne...
Ils ne sont pas remplacés, les jeunes ne sont pas attirés par
c'est
ce
ça.
Quartier.
Donc les jeunes ne sont pas attirés, c'est le manque d'attraction clair. Au niveau de ce territoire.
Et surtout pas par la médecine libérale, parce qu'on croule sous les papiers. On croule sous les papiers, sans arrêt. J'ai des dossiers, des demandes pour des allocations adultes handicapées, pour des tierces personnes, pour les personnes âgées qui ont besoin d'une femme de ménage à domicile, etc. On a des dossiers à remplir. Alors moi, ce que je fais, je les prends à la maison, j'ai les dossiers de mes malades, je les remplis le week-end. Mais un jeune n'est pas intéressé par ça. Il n'est pas fait pour remplir les papiers. Il est fait pour faire la médecine, un jeune médecin. Voilà.
Oui. Karima ?
Non, c'est en écoutant un peu chaque intervention. Moi, j'ai le souvenir, puisqu'on parlait de l'après-m, quand il y a eu la bataille pour que l'après-m soit créée, on avait l'impression, effectivement... Alors, il y a pas mal de contradictions, peut-être, dans ce que je vais dire. On a vu, puisque c'était un territoire qui a bénéficié d'un dispositif qu'on appelle la ZFU, la zone franche urbaine, on a vu beaucoup de laboratoires... s'installer ou de personnes libérales s'installer, etc., dans ce territoire. Et j'avais l'impression, très honnêtement, mais que la seule entrée qui était privilégiée pour traiter la question des habitants des quartiers populaires, c'était la question de la santé et les programmes de rénovation urbaine. Alors qu'on sait que c'est plus global. La question de l'emploi, c'est une question qui crée de l'anxiété chez les gens parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de l'emploi ou ils n'arrivent pas à avoir assez de revenus pour pouvoir subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Il y a la question aussi des établissements scolaires, etc. Donc j'ai l'impression qu'on a délibérément choisi dans ce territoire de traiter deux questions, qui étaient la question urbaine et la question de la santé, mais pas comme vous le précisez, docteur, c'est-à-dire ce manque effectivement criant aujourd'hui de médecins généralistes. Et on voit ces files d'attente de patients. Et effectivement, moi, ce qui me surprend, parce que je n'ai pas connu ça quand j'étais plus jeune, on allait voir le docteur et on attendait. C'est pour ça qu'on nous appelait des patients. Maintenant, on prend des rendez-vous pour aller voir le médecin. Mais sauf quand on est malade, on ne sait pas quand c'est qu'on tombe malade. Donc, c'est bizarre comme fonctionnement aujourd'hui auquel les patients ou les habitants sont confrontés. Mais vraiment, vous verrez, vous circulez dans le quartier, Il y a un laboratoire juste à l'entrée du rond-point de Sainte-Marthe, quand on vient de la Belle de Mai Saint-Barthélemy. Vous en avez un en face de Picon. Vous avez plein de structures comme ça qui s'aiment. Vous avez le centre d'urgence, etc. Mais oui, évidemment qu'il faut traiter les questions sanitaires. Mais j'ai l'impression qu'on oublie d'autres problématiques à ces territoires. Et la médecine ne pourra pas soigner les gens sur d'autres aspects.
Mais excusez-moi, Karima, mais ces laboratoires existaient déjà. Hein. C'était le laboratoire Cayolle qui était dans le Marie-Madeleine et c'était le laboratoire Bourg qui était dans la pharmacie des Carolis. Ils se sont un peu excentrés.
Ils se sont délocalisés. Ouais.
Mais ils existaient déjà. Avant, on avait aussi un laboratoire à Carrefour qui n'existe plus. Je crois qu'il y avait aussi un laboratoire au Flamand ou quelque chose comme ça. Ça n'existe plus.
Voilà. Joseph, j'aurais besoin de toi pour mon travail sur la mémoire. Mais oui.
Oui.
Mais il m'avait donné son numéro, mais je ne l'ai pas. Jean-Marc, oui.
Oui, juste bonjour. Déjà, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de savoir un peu, parce que c'est une population aussi jeune, avec des familles nombreuses, avec des enfants qui sont extrêmement petits. Donc, c'est une prise en charge concernant la santé d'un point de vue pédiatrique. Qu'est-ce qui est prévu et qu'est-ce qui est envisagé dans ce centre de santé, d'une part. D'autre part, par rapport aux difficultés que rencontrent les élèves, surtout lorsqu'ils sont en élémentaire, les enseignants nous font les incites, nous font remarquer, observer qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont 10, qui auraient besoin d'orthophonie, qui auraient besoin de notre accompagnement. Est-ce qu'on peut envisager dans un avenir peut-être proche qu'il puisse y avoir non seulement de la pédiatrie, n'est-ce pas, qui serait utile, mais aussi d'autres spécialités aussi qui pourraient permettre aux parents de savoir à qui se référer, parce qu'ils sont assez désemparés face à de telles absences, bon, qu'il faudra arriver à pallier un de ces jours. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Alors, je vais avoir du mal à répondre sur le projet à long terme du centre, puisque c'est pas moi. Mais en tant que médecin généraliste, on accueille les enfants. On n'est pas pédiatre, évidemment, mais on va faire du suivi des enfants. Et il y a un programme avec l'hôpital Nord qui est en train de se monter. Mais c'est difficile de vous en parler, parce que nous aussi, on est en construction. Mais il y a un programme sur justement le dépistage et le suivi des enfants. Qui présentent des troubles du spectre autistique ou enfin en tout cas des troubles du développement des enfants. Donc on sait que c'est un des problèmes ici et on l'a en tête. Après, je ne sais pas ce qu'on va réussir à mettre en place, mais effectivement, on l'a en tête.
Je vous remercie. Je vous propose une nouvelle respiration musicale avec un morceau toujours très animé et très gai. Grégoire, ma maladie, mon combat.
Je vous en prie, ne faites pas un drame de ma souffrance, ma maladie. J'ai besoin de vos rires, pas de vos larmes. J'ai besoin de force, j'ai besoin de vie. J'ai besoin d'espoir dans mon combat. J'ai besoin d'amour, pas de déprime. C'est bon, j'en ai assez comme ça, avec cette putain de mort qui frime. Et ne vous mettez pas à ma place, mais restez là à mes côtés. Car pour moi, chaque minute qui passe est une minute de compter. Et je vous promets, elle m'aura pas. Je vais pas tomber, je vais pas lâcher. J'ai des ressources qu'elle ne voit pas. J'ai du courage à volonté. C'est mon combat, c'est ma galère. Et je voulais pas vous y embarquer. Et si vous ne savez pas quoi faire, montrez-moi juste que vous m'aimez. Oui, c'est mon combat, c'est ma galère. Et je voulais pas vous y embarquer. Et si vous ne savez pas quoi faire, montrez-moi juste que vous m'aimez. Je vous en prie, ne faites pas un drame de ma souffrance, ma maladie. J'ai besoin de vos rires, pas de vos larmes. J'ai besoin de force, j'ai besoin de vie. J'ai besoin qu'on danse autour de moi, qu'on fasse la fête pour que j'oublie cette injustice qui tombe sur moi. Même quelques secondes, c'est du répit. Parfois l'amour, ça tient à rien. Juste un regard, juste un texto. Y a pas pire que ceux qui disent rien, qui disent qu'ils ne trouvent pas les mots. Non, y a pas besoin d'être Rimbaud. Je te jure que c'est pas nécessaire, car y en a pas de bons des mots, à part tous ceux qui sont sincères. C'est mon combat, c'est ma galère. Et je voulais pas vous y embarquer. Mais si vous ne savez pas quoi faire, montrez-moi juste que vous m'aimez. Oui, c'est mon combat, c'est ma galère. Je voulais pas vous y embarquer. Et si vous ne savez pas quoi faire, montrez-moi juste que vous m'aimez. Je vous en prie, ne faites pas un drame de ma souffrance, ma maladie. J'ai besoin de vos rires, pas de vos larmes. J'ai besoin de force, j'ai besoin de vie. Sachez que je vous quitterai jamais. Je vous garde en moi à l'infini. Tous les bonheurs qu'on m'a donnés, eux ne seront jamais repris. Je le répéterai jamais assez, faut profiter, vivre intense. Car un jour tout peut s'arrêter, et c'est plus dur que tu ne le penses. Allez maintenant, on n'en parle plus, on va la bouger cette montagne. On recommence pas quand c'est perdu, là y a pas le choix, il faut qu'on gagne. C'est mon combat, c'est ma galère. Et je voulais pas vous y embarquer. Mais si vous ne savez pas quoi faire, montrez-moi jusqu'où vous m'aimez. Oui, c'est mon combat, c'est ma galère. Et je voulais pas vous y embarquer. Mais si vous ne savez pas quoi faire, montrez-moi jusqu'où vous m'aimez.
Les échos du Grand Saint-Barthélemy sur le 88.4 FM, 88.4 FM qui n'est rien d'autre que la fréquence de Radio Galère. Je pense que j'ai oublié de le dire aujourd'hui, non ? Hormis la te présenter, soit aussi dit, excusez-moi Radio Galère. On vous a annoncé depuis le début de l'émission un micro-trottoir réalisé par Hugo. Donc Hugo, on va te laisser présenter ce que tu fais et ce micro-trottoir.
Alors, je vais préciser tout de suite, moi j'ai rien réalisé du tout, c'est-à-dire que moi en tant que médiateur au centre social, j'encadre un groupe de jeunes, mais ce sont eux qui ont réalisé le podcast que vous apprêtez à écouter, c'est-à-dire que ce sont eux qui sont partis dans la rue, ce sont eux qui avaient le matériel en main, ce sont eux qui sont allés à la rencontre des habitants qu'ils connaissent, ce sont eux qui leur ont posé les questions, et moi je les ai encadrés. J'ai assuré une toute petite partie technique parce qu'il a fallu faire du montage sonore et que même si à terme j'ai envie que ce soit eux qui s'emparent de cette question-là aussi, là en l'occurrence c'est moi qui l'ai fait. Et donc voilà, le projet s'appelle... Je pilote un projet qui s'appelle Quartier Sonore, qui est un projet tout jeune, financé par le dispositif qui s'appelle les cités éducatives. Puisque moi, en tant que travailleur social, j'ai un parcours... qui fait que je viens j'ai un pied, on va dire, dans le milieu de la musique et le milieu de la radio. Donc je voulais combiner aussi mon savoir-faire et mon travail. Et le projet s'appelle Quartier Sonore. Et il est question, je me permets de le présenter un tout petit peu avant qu'on écoute. Il est question de la création d'un média local alimenté par les habitants eux-mêmes autour du médium son. C'est-à-dire que même si, a priori, on sera forcément obligé à quelques moments d'utiliser quelques images, quelques photos, quelques vidéos, en vérité, il s'agit surtout de sons, il s'agit surtout de voix, il s'agit surtout de musique, il s'agit surtout du son sous toutes ses formes, avec des podcasts qui seront des émissions sous forme de micro ouvert, un petit peu comme ici, qui seront des fictions radiophoniques, qui seront des reportages, des micro-trottoirs, voilà, autant de formats, mais qui ont en commun d'être sonores. Et donc, on est ravis, le Maméga est partenaire du projet, le comité Maméga est partenaire du projet. Ce sont eux qui ont missionné mes jeunes en leur disant, voilà, on prépare une émission sur le centre de santé. On aurait envie d'avoir des réactions d'habitants. On vous confie cette mission-là et on s'est emparé de cette mission avec beaucoup de responsabilité, beaucoup de fierté. Et les jeunes sont partis interviewer. En l'occurrence, je travaillais avec un jeune qui se présentera au début du podcast. On est parti rencontrer les habitants pour leur poser la question pour avoir des réactions de leur part sur l'ouverture de ce centre médical. Et c'est le premier format qu'on partage avec vous. Il y aura plein d'autres choses et je vous invite à à rester au fait de ce qui va se passer. Le média va s'appeler Quartier Sonore et on va essayer d'avoir de plus en plus de contenu relatif à la vie du quartier.
Hugo, à l'heure actuelle, tu encadres combien de jeunes, si je peux me permettre?
En tant que médiateur sur ce scolaire projet, ou quartier, sur ce projet-là?
Sur ce projet Quartier Sonore.
À terme, l'objectif, c'est d'avoir une espèce d'équipe fixe, constituée, j'espère, d'une dizaine de jeunes qui seraient la team Quartier Sonore. Des jeunes à l'aise avec la technique, à l'aise avec le fait de mener des entretiens, de poser des questions. Cette équipe, elle commence à se former. Là, pour l'instant, j'en ai 3-4 qui sont des jeunes sur lesquels je sais que je peux compter, qui sont fiables. Parce qu'il y a la question de la pérennité, c'est-à-dire que les jeunes, ponctuellement, sont toujours là. Inscrire des projets sur plus long terme, c'est toujours un peu plus technique. Pour l'instant, on va dire qu'on s'est vraiment mis en place au début des vacances de la Toussaint, qui sont des périodes avec plus de jeunes dans les centres sociaux. J'ai eu une vingtaine en tout, peut-être 20-25 jeunes devant le micro.
Oh bah c'est déjà pas mal, et tu viens de commencer. Donc
voilà, j'ai beaucoup de choses à monter, beaucoup de contenu. On parle de sujets de société, on fait des présentations de métiers. C'est assez varié, mais il y a une vraie adhésion et je suis très très heureux de pouvoir partager ça aujourd'hui avec vous.
Merci beaucoup. Oui.
Ça veut dire que des jeunes de la Busserie, de Fontvert ou de la Benosse peuvent venir s'inscrire dans cet atelier.
Alors moi, je suis dans une position qui est assez nouveau sur le quartier, sur le territoire, puisque je suis là depuis avril dernier, donc je suis pas encore forcément autant. Je commencerai à être identifié par les jeunes des Flamands et des quartiers autour du centre social, parce que je travaille avec eux au quotidien, parce que je les ai emmenés en séjour, donc ils me connaissent, ils me font confiance. J'ai fait une émission sous forme de micro-ouvert avec les jeunes de l'Agora. Évidemment, l'enjeu pour moi, c'est de créer aussi des connexions entre les jeunes de tous les quartiers et de couvrir tout le territoire, absolument tout le territoire. Donc non, au contraire, s'il y a des gens qui écoutent cette émission-là sur Radio Galère, tous les jeunes du Grand Saint-Barthélemy sont les bienvenus pour rentrer en contact avec moi et qu'on réfléchisse. Surtout, moi j'ai impulsé une dynamique, le média ne m'appartient pas, c'est-à-dire que c'est aux jeunes, et pas qu'aux jeunes d'ailleurs, mais aux gens du territoire de s'emparer du média et de proposer des choses. Tout est bon à prendre. On va essayer de travailler aussi avec l'association Sheba, qui fait beaucoup d'ateliers d'écriture, pour essayer de mettre en son ces ateliers-là. Il est question de diffuser la parole aussi. Il est question de pour moi, l'enjeu, c'est des conversations que j'ai avec les jeunes, d'insister sur la préciosité de leur voix, la préciosité de leur dire, leur mots, et que j'ai pas envie que ce soit des choses qui se perdent. Il faut faire circuler cette parole, en fait.
Je vous propose d'écouter le micro-trottoir. Merci beaucoup, Hugo.
Avec plaisir. Merci à vous.
Bonjour à tous, c'est Almo du Quartier Sonore. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on va poser des questions aux habitants du Grand Saint-Barthélemy. Voilà, on va leur poser des questions sur le nouveau centre médical qui vient d'ouvrir aux Flamands. J'espère que ça va vous plaire. Et let's go!
Vous êtes bien sur Quartier Sonore!
Qu'est-ce que vous en pensez du nouveau centre médical qui vient d'ouvrir aux Flamands?
Je ne suis pas encore allée, je ne savais pas qu'il avait ouvert. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de queue. On n'a qu'un médecin ici au Mail, là-bas la queue est interminable.
C'est une bonne chose parce que c'est dans le quartier des Flamands. Et aujourd'hui, dans le quartier des Flamands, il y a une grande population de personnes âgées qui ont beaucoup de difficultés à se déplacer, et donc c'est très bien pour ces personnes et ces familles.
Moi, je fais partie des gens qui ont fait les démarches pour y avoir un centre médical ici. Déjà, vous savez très bien que les gens qui fréquentent nos structures, c'est des gens qui, leur médecin, c'est là-bas au Mail. Et au Mail, quand on y va là-bas, voir comment les gens sont accueillis là-bas, je fais partie vraiment des gens qui se disent que c'est pas possible. On ne peut pas vivre toujours et rester toujours laisser nos publics vraiment dans des situations pareilles. Donc.
Salut, c'est Safouane, vous êtes bien sur Quartier Sonore.
Salut, c'est Naïla, vous êtes bien sur le Quartier Sonore. Okay.
Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, et vous?
Comment était cette consultation chez ce centre médical?
Ben, ça s'est très bien passé. J'habite juste à côté. Je suis descendu, j'avais rendez-vous à 14h30. Je suis rendu à 14h20. Et directement, j'ai eu ma consultation.
Vous avez attendu longtemps pour venir ici ou...
Non, pas du tout. Je suis venu, il était 25. Je suis resté assis, elle a pris mes papiers. Directement après, le docteur est venu. Je l'ai appelé à 14h. Elle m'a dit, viens à 14h30. Je suis sorti à 14h20 chez moi. Je suis venu et elle m'a pris direct. Le docteur m'a pris. Moi, à chaque fois, je prenais le métro pour y aller. Du coup, j'ai su qu'il y en avait un ici. Ça m'a beaucoup aidé, quoi. Ouais, c'était un problème. Moi, je prenais le métro. J'allais vers Guèze. Soit j'allais... Il y en a un... Il est où déjà? En gros, c'était pas à côté, quoi. Ouais, c'est une très bonne nouvelle. Hein. Là, ben, je suis rentré il y a même pas 20 minutes. Je suis sorti maintenant et je vais rentrer chez moi à côté. De toute façon, il y a tout maintenant à côté.
Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un nouveau centre médical en bas?
Oui, et il m'a sauvé la vie. Oh, ben... Parce que je t'explique. Moi, mon médecin traitant, je me suis disputé avec lui parce qu'il m'a dit que je n'étais pas un travailleur et tout, que j'ai eu un grave accident de voiture. Donc, quand j'ai ouvert ce centre médical, je l'avais jeté mon médecin pendant des mois. Je ne pouvais pas me mettre en maladie, je n'avais pas de docteur. Et là, je suis allé le voir, j'ai discuté avec lui, c'est un brave mec, et c'est un bon centre médical. Et j'ai fait descendre ma mère qui est diabétique, elle aussi elle s'est mise là-bas.
Merci à vous et ça fait plaisir de voir des jeunes qui s'y mettent vraiment dans ce domaine, dans ce métier. Je suis très ravi vraiment d'être interrogé par vous.
Yo yo, c'était Talmo du Quartier Sonore et à très prochainement pour un autre Street Report.
Salut à tous, c'est le Quartier Sonore. J'espère que vous aimez beaucoup cette émission. C'est la meilleure émission du monde.
Ben, Chérifa, justement, tu es une habitante. Tu t'es rendue sur le centre médical. Alors, toi, on attend tes impressions et ton retour.
Ben, écoutez, moi, j'ai été au premier rendez-vous. Je me suis retrouvée toute seule parce que Fabienne, elle avait changé le rendez-vous.
La date de la réunion, oui.
Voilà. Et moi, j'étais pas. Elle l'a pas envoyé sur mail. Donc, je me suis retrouvée seule. J'ai fait connaissance de la secrétaire et d'un médecin, mais j'ai pas retenu son nom. Un monsieur. Et alors, il m'a dit qu'il était généraliste et gynéco. Donc, je vous ai fait quoi, deux en un? Il est bon, un peu d'humour, quoi. Il a dû le temps de trouver une sage-femme ou une gynécologue. Voilà. Mais franchement, très sympa, c'est magnifique à l'intérieur, c'est agréable. Donc, j'espère que ça va marcher, surtout par rapport aux habitants, que c'est vrai qu'on a vraiment besoin de docteurs. Pas que les généralistes, je vous dis honnêtement. Donc il y a beaucoup de demandes, j'ai fait une liste des habitants que j'ai notée. Alors, je peux me tenir ça? Juste, j'ai regardé, parce que j'ai pas pu te donner. Alors, l'orthophoniste, ergothérapeute, ouais, voilà. Psychomotricien. Ouais. Marqué. Ouais. Voilà. Psychiatre, bon, je pense que psy,
il y a un psychologue.
Psychologue ?
Oui.
D'accord. La différence avec le psy, le psychiatre, c'est quoi ?
Psychologue, c'est pas un médecin. C'est quelqu'un qui a fait des études de psychologie.
D'accord.
Et qui peut suivre les patients qui ont des troubles psychologiques, ça peut être des troubles anxieux, ça peut être des troubles dépressifs. D'accord. Psychiatre, c'est des médecins qui font la spécialité psychiatrie. C'est eux qui peuvent prescrire des traitements. Et suivre des gens qui ont des pathologies psychiatriques, donc plutôt des schizophrénies, des troubles bipolaires, des choses comme ça. Ouais. Psychologue, là, il peut suivre, par exemple, des patients pour des dépressions, des troubles anxieux graves, enfin, ou pas graves d'ailleurs, mais des
troubles anxieux. Mais en termes de prise en charge, il me semble que ce n'est pas la même chose.
Comment ?
Le psychologue au niveau du remboursement de la part sécu.
Alors, le psychologue, le plus souvent, c'est pas pris en charge par la sécurité sociale. C'est ça. Mais au centre de santé des Flamands, du coup, on a un système qui fait que les consultations sont prises en charge.
Ah, c'est bien.
Alors, il faut, du coup, le principe, c'est de passer d'abord par un médecin, qui est soit le médecin traitant du patient, soit nous, si vous venez de voir, mais sinon le médecin traitant, qui oriente vers le psychologue. Juste pour que, avant, le médecin sache si c'est un psychologue ou un psychiatre qu'il faut aller voir, d'accord, par exemple. Mm-hmm. C'est le médecin qui oriente. Mais du coup, d'accord, là, les consultations sont prises en charge du psychologue. D'accord.
Donc, cardiologue aussi, dermato. C'est des attentes de...
Est-ce que c'est des choses qui sont prévues à moyen terme ou à long terme au niveau du centre médical?
J'ai du mal à répondre à la question. On sait qu'il manque énormément de choses. Alors, effectivement, il y a plein de choses qu'on peut faire en médecine générale, mais on ne peut pas tout faire. On espère que le fait qu'on soit avec la PHM, on ait un lien privilégié aussi avec les médecins de la PHM. C'est plus simple quand on les connaît pour avoir... Parce qu'il y en a des médecins quand même, mais effectivement, il y en a beaucoup qui ne sont pas disponibles. Voilà, il y a beaucoup de choses. Enfin, on nous a remonté souvent toutes les spécialités qui manquaient. On pourra pas avoir tout le monde, je pense, mais on l'a en tête, et sur le suivi des enfants, sur l'orthophonie, effectivement, il y a une grosse demande. Je sais pas, je pense que on essaiera d'avoir le plus de monde possible, mais
voilà. On espère. Hein.
Oui, d'abord, bravo Hugo pour ce petit reportage. Le mois prochain, ce qui est prévu, c'est travailler sur la solidarité avec le Secours populaire. Donc, bien sûr, nous serons amenés à te revoir, rediscuter avec toi concernant un podcast à nouveau. Ouais. Ceci étant,
quand Jean-Marc dit le mois prochain, l'émission a lieu le 14.
Oui, normal, il y a le Papa Noël. La question, est-ce que le Papa Noël est une ordure?
Non, mais il vaut mieux
qu'Hugo,
il entende la date. Qu'on ne puisse pas lui mettre une pression supplémentaire.
Je reviens concernant le centre de santé. La question est la suivante, à savoir quel est le lien avec la maison départementale de la solidarité des Flamands, parce qu'il y a psychologue, il y a la PMI qui existe. Est-ce que vous avez tissé une collaboration possible ou vous envisagez de le faire?
Avec la maison, PMI.
La MDS et la PMI,
ouais,
oui. Oui,
bien sûr.
D'accord, ok.
Bien sûr.
Parce qu'il me semble que c'est surtout tout ce qui concerne la pédiatrie aussi, surtout les enfants.
Le planning, il y a un planning. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, c'est pour ça. On va pas. Ouais, on va travailler avec eux, bien sûr.
Donc, il y aura une orientation de certains patients.
Il peut.
D'accord.
Oui, tout à fait.
Ou vice versa.
S'il y a des choses. Exactement. Si, bien sûr. Oui, oui.
Parce qu'en plus, cela permet d'avoir un accompagnement social aussi, puisqu'il y a les assistantes sociales, les travailleurs sociaux qui se trouvent à la maison départementale de la solidarité.
Jean-Marc, si je peux me permettre, je veux rajouter un truc lors d'une réunion avec la maison de santé, tous les représentants de la maison de santé. Ils comptent aussi travailler en partenariat aussi avec Médian 13. Voilà.
On aimerait. Alors, on est en train de construire les partenariats.
Voilà, justement, c'est la question. Quels sont les partenaires envisagés? Donc, il y aura le comité Maméga, il y a le centre social des Flamands, bon, et autres. Voilà, Saïd semble vouloir intervenir.
Je voudrais faire un peu la pub pour le centre de santé. Il faut expliquer que ce sont des salariés. Ça, c'est important parce qu'il y a des médecins, il faut dire la vérité, qui sont libérales, qui ont 200, 300 patients. Il n'y a que du matin au soir, ils reçoivent les gens 5 minutes. Donc il faut quand même dire les choses. Donc là ce sont donc des personnes qui sont salariées. Donc quand j'ai plus de monde ou moins de monde, ça ne change pas grand chose. Et donc qui peuvent prendre le temps. C'est vrai que vu la pénurie de médecins, c'est vrai que certains ont beaucoup de patients parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais même le fait qu'il y ait ce genre de lieu, pour moi, c'est très important parce que les rendez-vous, c'est assez rapide et les consultations sont des vraies consultations.
Merci pour cette intervention, Saïd. Ce que je vous propose, c'est de faire une pause musicale avec un morceau de L'Homme Pâle, qui est toujours aussi joyeux, Maladie moderne. Il est un peu plus joyeux celui-là quand même.
Le sens de la vie part en fade out. Aucune bonne raison, mais je veille tard. J'anticipe déjà le réveil d'après. J'aimerais bien pleurer, mais y'a rien qui s'y prête. Et s'ils sont vraiment pour le partage, alors qu'ils viennent me prendre une part de vide, de son plaisir dans l'appartement. Le seul hic, c'est que j'en ai un petit peu marre de vivre. Ma douce, ma belle parle de moi, et je suis bien le seul que ça n'intéresse pas. Mais tout sur pause, appuie sur la barre espace. Si, si, je suis un fantôme dans le noir. Maladie moderne, je soupire jusqu'à mon dernier. C'est l'enfer, la machine marche à l'envers. Oh maladie moderne, je soupire jusqu'à mon dernier. C'est l'enfer, la machine marche à l'envers. Et la nuit porte le doute perdu, je sais plus si je suis bloqué dans ma chambre ou bloqué dans ma tête. Vu que rien ne change, je me dis que j'ai pas de chance, comme la plupart des gens, mais je le mérite peut-être. Bien sûr que je me sens MAUDIT. Le vide fait du forcing pour me dater. Demander de l'aide, j'aurais jamais idée. Pas du genre à crier trois fois Mayday. Nope, plus qu'à continuer de croquer dans ce fruit, jusqu'à ce qu'il ait un goût de Goya. J'ai mis ma veste pour sortir boire un verre, mais je suis encore assis et tout à fermer. Bon comédien, je fais semblant de l'aimer. Ça deviendra vrai 3 jours et demi dans l'année. Mais ce 1% de plaisir est tellement raffiné. Je sais bien que le miel n'existe que grâce au vinaigre. Maladie moderne, je soupire jusqu'à mon dernier. C'est l'enfer, la machine marche à l'envers. Maladie moderne, je soupire jusqu'à mon dernier. C'est l'enfer, la machine marche à l'envers. Et la nuit porte le doute perdu, je sais plus si je suis bloqué dans ma chambre ou bloqué dans ma tête. Vu que rien ne change, je me dis que j'ai pas de chance, comme la plupart des gens, mais je le mérite peut-être.
Les échos du Grand Saint-Barthélemy, avec une partie de nos invités. Au fur et à mesure de l'émission, certains sont partis. Mais comme je le disais tout à l'heure, les meilleurs sont restés. Nous sommes sur la dernière partie. Est-ce que, Sarah, vous avez des choses que vous souhaitiez rajouter ?
Je ne crois pas sur le centre de santé. C'était... Je crois pas.
Non, ok, super.
Ça reste à voir.
Ouais.
On attend de voir voilà.
Nous aussi.
Et j'espère que ça marchera comme ça.
Est-ce qu'on peut avoir le numéro de téléphone du centre de santé ?
Non, c'est important parce qu'elle a parlé de partenariat, mais je pense que c'est important de faire un bilan semestriel, y compris avec les acteurs associatifs, des comités d'habitants, puisque les centres sociaux ont des comités d'usagers qui sont souvent des constitués d'habitants, évidemment. Mais c'est bien de faire des points d'étape comme ça pour savoir si effectivement, en plus de l'émission que fait Hugo avec les jeunes, de savoir s'ils sont satisfaits, quelles sont les améliorations qu'il pourrait y avoir, parce qu'on est quand même sur un territoire qui est qualifié, qui est en QPV, donc quartier prioritaire politique de la ville. On sait qu'il y a une thématique santé dans le cadre de la politique de la ville, et les habitants peuvent influer aussi sur des crédits qui peuvent être octroyée à la structure pour qu'il y ait des spécialistes qui viennent tenir des permanences chez vous. Voilà.
Ouais, d'où l'importance du lien avec les assos et le reste.
Oui, juste rappeler que nous allons envisager avec Clément, bien sûr, d'organiser une autre émission en 2024 pour faire un premier bilan, voir un peu la gestion du flux aussi des patients. Comment cela est-il géré? Est-ce qu'il y a un peu plus de médecins pour l'accueil et comment l'accueil est organisé pour gérer un peu tous les habitants, parce que nous sommes extrêmement nombreux sur ce quartier, voir un peu comment arriver à gérer un peu ce flux et qu'il ne puisse pas dégénérer négativement aussi.
Ouais. Donc on soit débordé trop rapidement.
Voilà, tout à fait.
Ben avec plaisir.
Voilà. Eh ben, Lily.
Oui. Non, je voulais juste le numéro de téléphone du centre de santé, s'il y a des habitants qui ont besoin de prendre rendez-vous, même si j'imagine qu'ils peuvent directement se rendre
ils
sur place.
Passer.
Oui, l'adresse est 10 avenue Alexandre Ansaldi, donc dans le 14e.
C'est ça.
Par contre, le numéro de téléphone.
Et
ça.
Le numéro de téléphone, c'est le 04 91 38 24 24.
Il y a un mail aussi.
Comment ?
Il y a-t-il un mail, une boîte mail
non, on n'a pas,
pas
de.
Encore, pas pour le moment.
Pas, non, pour le rendez-vous, c'est pas très pratique.
D'accord.
Oui, c'est pas
non,
très pratique.
Mais,
Doctolib non plus.
Doctolib non plus.
Oui,
bah,
d'accord.
Non.
Voilà.
Sinon,
okay.
On va soigner tout le monde.
Bah, je vous remercie en tout cas, Sarah, Chérifa, Karima. Karima, je ne te libère pas encore. Hugo. Bah, Clément, si vous voulez y aller aussi. Je suis sur les communiqués de presse. Donc, je ne dis pas que c'est inintéressant, mais quand on a des rendez-vous, on peut peut-être passer à côté. En rappelant que cette émission sera rediffusée sur.
88.4.
Exactement, sur Radio Galère.
À 14h05.
Ah, tu as des informations que je n'ai pas, c'est pour ça que je ne me suis pas prononcée.
Mais, voilà.
Mais en tout cas, elle sera accessible sur le site du comité Mamega qui est www.vivreensemble.org.
Ainsi que sur le site de Radio Galère.
On devrait faire un sketch tous les deux. Donc sur la partie communiqué de presse, un seul communiqué qui est celui de l'après-m. Donc nos amis de l'après-m qui ont lutté pour pouvoir récupérer l'ancien McDonald's qui se trouve sur rond-point Pierre Paraf. Mais les ronds-points ont des prénoms. Donc le McDo de Sainte-Marthe qui est devenu... Il y a un running gag aujourd'hui, c'est une histoire de chèque. Je n'ai pas de chéquier. Donc... qui est en difficulté, qui a récupéré l'ancien McDo de Sainte-Marthe et qui aujourd'hui fait appel à une levée de dons pour les aider à réaliser ce qu'ils appellent leur projet de vie. Donc ils ont lutté contre une multinationale, McDonald's. Nous luttons contre toutes les précarités, nous créons de l'emploi, nous sommes un lieu culturel et nous le transmettons aux futures générations. Donc ils ont un objectif de recueillir 300 000 euros. Les 100 000 premiers euros serviraient au développement de la gamme gastronomique pour aiguiser les papilles avec des produits frais, acquéris en circuit court et avec la mise en place d'un programme d'éducation populaire autour de la cuisine. Les 100 000 suivants serviraient à faire évoluer le décor parce qu'effectivement, on le rappelle, le mobilier, tout ce qu'on peut retrouver au sein de l'après-m, c'est ce qu'on avait dans l'ancien McDonald's, donc avec du mobilier qui est en bon état mais qui a vécu. Et les 100 000 suivants serviraient à développer le projet de village, des initiatives et d'entraide, d'où leur essor de projet de vie VIE, pour lutter contre toutes les précarités.
Oui, Jean-Marc. Donc nous allons profiter de la présence de Saïd pour que nous puissions faire un point d'étape concernant les 40 ans de la marche, n'est-ce pas Saïd ?
Les 40 ans de la marche pour l'égalité et contre le racisme, oui. Donc, pour ceux qui ont un peu de mémoire, se rappellent que ça a commencé le 15 octobre et ça finit le 3 décembre. Et donc, justement, le 3 décembre, il y aura à Paris une grande manifestation contre le projet Darmanin sur l'immigration. Vous avez vu des choses scandaleuses qui ont été proposées par le Sénat. Mais même en enlevant les choses les plus scandaleuses, ce qui reste, c'est quand même très grave. Et donc, il se trouve qu'il y avait un mouvement qui s'organisait contre le projet Darmanin. Et comme ça tombait à cette période-là, on s'est associé avec tout le monde, c'est-à-dire il y a des syndicats, des partis politiques, des associations, etc. Donc le 3 décembre, mais il faut aller à Paris.
Ou alors, il faudra que des gens fassent des trucs sur
Facebook Live.
Facebook Live, mais c'est que moi, je ne sais pas faire ça. Donc, j'espère qu'il y aura des jeunes. Mais s'il y a des jeunes, c'est ça qui est bien. Parce qu'il y a des jeunes, puisque je rappelle que le thème pour nous, c'était les 40 ans et surtout la transmission. Sure.
Merci.
Jusqu'à l'exposition. Donc l'exposition sur la marche, elle est au musée d'histoire. Donc c'est facile à trouver. On peut y rentrer par le centre bourse.
Et il me semble que c'est jusqu'au 15 janvier.
Jusqu'au 15 janvier. Donc il reste encore ce moment où on peut la voir. Mais maintenant, n'oubliez pas aussi que la même exposition, elle existe ailleurs, elle existe à la mairie du 15-16.
Elle y est déjà ?
Elle y est déjà, oui.
Elle y est encore jusqu'à après, il me semble.
Voilà, donc il y a deux expositions qui sont les mêmes, et qu'on met en parallèle pour le centre-ville, et on n'oublie jamais les quartiers nord.
Merci beaucoup Saïd, merci Karima, merci à tous d'être venus et merci au comité à Radio Galère d'accueillir cette émission qui recueille la parole des habitants mais qui retrace un morceau de la vie de ce territoire qui est le Grand Saint-Barthélemy, sans oublier ceux qui nous soutiennent, c'est-à-dire les financeurs, la politique de la ville de l'État et de la métropole qui nous soutiennent. La prochaine émission aura lieu le 14 décembre avec le Secours Populaire.
Et c'est à revoir un peu les dates avec Sidi.
Ah donc peut-être
parce
pas le 14 décembre.
Parce qu'il y a des
décembre.
Rediffusions, ça sera à voir. Donc de toute façon, il y aura l'information qui circulera à ce moment-là.
Voilà. Mais merci à tous. Et on se quitte avec un dernier morceau qui suit Louis Soprano, à nos héros du quotidien.
On ne se connaît pas, mais je voulais vous dire merci. Si vous saviez combien vous avez changé ma vie, sans vraiment le savoir, vous avez fait de la magie. Moi qui ne croyais plus en moi ni en l'avenir, combien de fois ai-je voulu tout foutre en l'air? Je n'avais plus la force et l'envie d'aller faire ma guerre. Je n'avais plus le souffle pour faire tourner la roue. Jusqu'au jour où le destin vous a mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Grâce à vous, ma flamme s'est allumée. On a tous un jour eu ce moment de magie. Croiser ce héros malgré lui qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire. Pas, mais vous m'avez tellement appris. Vos mots, vos sourires et vos larmes ont sauvé la vie. Vos combats m'ont appris à encaisser les coups. Et votre persévérance à me remettre debout. Vos médailles ont redonné vie à mes rêves de gamin. Vos valeurs m'ont appris ce qu'est vraiment être un humain. Vous êtes ce second souffle qui m'a fait tourner la roue. Je remercie le destin de vous avoir mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Grâce à vous, ma flamme s'est allumée. On a tous un jour eu ce moment de magie. Croiser ce héros. Peut-être qu'ils feront l'effet que vous avez eu sur ma vie. On a tous un jour eu ce moment de magie. Croiser ce héros.